Bonjour Jeremy Hunt.
Bonjour Frédéric, bonjour Florence.
Vous êtes ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, le chef du Foreign Office, successeur de Boris Johnson qui a démissionné le 9 juillet dernier. Merci d'être l'invité de France Inter ce matin. C'est votre première interview à un média français. Merci donc de votre présence. Jeremy Hunt, vous l'avez cité à vos côtés, Florence Fauché. Elle est professeure de sciences politiques à Sciences Po Paris. Elle est spécialiste de votre pays, le Royaume-Uni, et elle répondra à partir de 8h30 aux questions des auditeurs d'Inter, parce que vous devez partir pour le Quai d'Orsay pour rencontrer votre homologue Jean-Yves Le Drian. Jeremy Hunt, vous étiez contre le Brexit. Aujourd'hui, vous défendez un Brexit doux. Ça ne doit pas être facile. Alors, c'est quoi? C'est de la loyauté, de la diplomatie, du pragmatisme ou un reniement?
Alors, je voudrais parler en français ce matin, mais je suis pas sûr si mon français est aussi bon que ça. Alors, permettez-moi de temps en temps d'échanger la langue de Molière pour la langue de Shakespeare.
Allons-y.
Mais c'est pas un problème pour moi parce que c'est une décision démocratique du peuple de l'Angleterre. Mais ce que me préoccupe maintenant, c'est le vrai risque d'un Brexit sans accord par accident.
Un no deal.
Un no deal. Parce que nous, le gouvernement anglais, on proposait une solution, mais je crains que beaucoup de gens dans l'UE pensent qu'il suffira d'attendre encore pour un changement de ligne de Grande-Bretagne. Cela n'arrivera pas. Et un Brexit sans accord sera une tragédie pour l'Europe. Difficile économiquement, comme vous avez entendu, mais enfin nous trouverions un moyen de prospérer. Mais ce que m'inquiète plus, c'est que ça peut changer les sentiments du peuple britannique vers l'Europe, avec un impact profond sur notre partenariat international si important pour l'ordre international. Et c'est ça que c'est très important de parler avec Jean-Yves Le Drian, parce que c'est un moment très, très important historique.
Je vous propose, Jeremy Hunt, de passer à la langue de Shakespeare grâce à notre traducteur Harold Manning, qu'on salue. Aujourd'hui, Jeremy Hunt, vous dénoncez l'arrogance de Bruxelles, mais est-ce que l'arrogance, elle n'est pas plutôt du côté des défenseurs d'un Brexit doux? En gros, ils veulent garder les bons côtés de l'Union européenne, mais sans assumer la solidarité européenne. En français, on dit avoir le beurre et l'argent du beurre.
Not at all. We've made choices.
On a fait des choix. Et nous savons que les choses seront différentes quand nous quitterons l'Union. Nous avons fait une proposition qui dit que nous suivrons toutes les règles de l'Union européenne sur les exportations. Et ce sera une sorte de perte d'autonomie sans cela. Mais ces échanges-là, nous voulons faire par ces échanges des choix géostratégiques. Et ce que nous avons avec la France, c'est un partenariat sur la défense, un des plus forts du monde. Aucun pays n'a fait plus que la Grande-Bretagne avec la France pour garder l'Europe en sécurité. Et nous voulons que ça continue. Et ce n'est pas seulement en Europe, mais tout autour du monde. Nous sommes Européens, nous partageons les valeurs européennes. Nous avons envoyé des hélicoptères au Sahel pour aider les forces françaises. Et ça, c'est un partenariat particulier. Le monde d'aujourd'hui est très imprévisible et l'amitié, la solidarité entre la France et la France, et la Grande-Bretagne est très importante en Europe. Et je veux être certain que, par accident, tout ça ne soit pas mis en risque. Parce que les Britanniques diront alors, nous voulions être amicaux, nous voulions continuer d'avoir des échanges libres avec l'Union européenne et ça a été refusé.
Alors, on va évoquer dans quelques instants les relations bilatérales entre la Grande-Bretagne et d'autres pays du monde. Parce que là, vous nous parlez par exemple de la défense. C'est pas un dossier Union européenne, c'est un dossier bilatéral. Mais restons un instant sur le Brexit. Est-ce que le problème, il est à Bruxelles? Est-ce que le problème, il n'est pas à Londres? Parce que dans votre parti, le Parti conservateur, on est très divisé. Et dans une démocratie parlementaire comme la vôtre, eh bien, quand le parti majoritaire est divisé, c'est tout le gouvernement qui tangue. L'ancien leader socialiste français Guy Mollet disait « La droite la plus bête du monde est en France ». Aujourd'hui, la droite la plus bête du monde, c'est pas la droite britannique?
Well, I'd say two things to that.
Je vais vous
First
dire
of all,
deux choses. La
you
première,
can't, separate,
c'est qu'on ne peut pas séparer la stratégie militaire stratégique et l'économie.
That comes because we have a strong economy.
Et s'il y a un budget pour cela et
qui est
adopté, c'est parce que nous avons une forte collaboration. Et ça a un impact sur toutes nos relations. Mais je crois que la véritable erreur, c'est de mélanger le Brexit avec du populisme de droite. Le Brexit a été une décision par le peuple britannique. Et je ne pense pas que c'est un secret, qui depuis des années, nous n'avons pas été très satisfaits des structures légales et juridiques de l'Union européenne. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas européens et que nous ne partageons pas les valeurs. Nous voulons une amitié qui soit particulière, qui soit profonde.
Mais la moitié du gouvernement britannique, pardonnez-moi de vous interrompre, la moitié du gouvernement britannique a démissionné. Hein, les Brexiteurs durs comme Boris Johnson, votre prédécesseur, sont partis du gouvernement. Donc il y a tout de même au sein du Parti conservateur britannique une tendance très forte à vouloir couper tous les ponts avec l'Union européenne. Ce qui n'est pas votre cas à vous.
Well, the fact is, on a decision like Brexit, there's going to be a very lively debate.
C'est un débat extrêmement vivant et il existe aussi en France à propos des questions européennes. Mais le gouvernement a fait un choix. Et Theresa May a dit que pour avancer, il nous faut des relations fortes avec. Nous ne voulons absolument avoir un commerce libre, absolument. Et nous voyons notre destinée diplomatique, économique, stratégique, proche de l'Europe. Et nous avons fait ce choix. Mais au final, si jamais vous voulez avoir un partenariat fort, il doit être réciproque des deux côtés. Et je m'inquiète. Dans la Commission européenne, c'est que certains ne reconnaissent pas qu'à la fin, c'est un grand choix géostratégique. Et ce serait une grande stratégie si nous nous trompons.
Un choix géostratégique, surtout avec des très gros dossiers. La France et l'Angleterre travaillent, on va dire, main dans la main sur la question iranienne, sur la question syrienne. Qu'allez-vous dire tout à l'heure à votre homologue Jean-Yves Le Drian ? Vous allez continuer à travailler notamment sur le dossier iranien, où on sait que les États-Unis, eux, ont mis fin à l'accord de façon précipitée et unilatérale.
Ça, c'est un très bon exemple. Parce que
sur l'Iran, nous étions d'accord avec la France et l'Union européenne, et nous ne sommes pas d'accord avec les Américains, avec M. Trump. Et nous travaillons très fort avec la France pour que ce deal avec l'Iran puisse continuer. Pour les empêcher de reprendre le programme. Et je pense que si on voit l'agression par la Russie en ce moment, il faut reconnaître que c'est un moment très instable de l'histoire.
Vous pensez toujours à l'annexion de la Crimée.
Il y a la Crimée, mais aussi le fait qu'il y a des armes chimiques dans les rues d'Angleterre, qui, nous le pensons, a été autorisée par les Russes. Et la France est très proche de nous là-dessus, sur ces sujets-là. Je pense que la responsabilité pour la sécurité en Europe, c'est de préserver et de développer la collaboration entre deux pays, pas d'aller dans un sens où, par accident, on va se retrouver une rupture d'amitié. Ce serait la dernière chose à souhaiter.
Il y a un autre paramètre dans l'équation qui s'appelle Donald Trump. Trump vous dit « Négociez un Brexit dur et vous aurez un bon accord commercial avec les États-Unis ». Là, ce matin, à Paris, au micro de France Inter, la radio publique française, vous vous dites « Européen, nous avons les mêmes valeurs, etc. ». Qu'est-ce que vous direz à Donald Trump quand il vous dira « Venez vers nous, venez vers les États-Unis, choisissez le grand large », comme disait Churchill ?
J'ai rencontré Donald Trump il y a deux semaines et nous avons eu exactement la même conversation. Nous avons dit que pour l'économie britannique, nous pensons qu'ils pensent que c'est très important de rester proche de l'Europe. Les emplois en Europe et en Grande-Bretagne en dépendent. Mais bien sûr, nous avons une amitié stratégique avec les USA qui est très importante. La France est aussi une amie et nous voulons développer cette relation tout autant. Mais nous avons fait notre choix. Nous voulons que notre économie reste proche de l'Union européenne. Mais il faut être deux pour danser ce tango-là. Et il y a besoin d'une grande réponse des Européens. Et sinon, nous allons finir, j'ai peur, avec quelque chose, avec des mois vraiment sombres.
Attention à danser le tango avec Donald Trump, il pourrait vous marcher sur les pieds.
Je pense qu'il peut marcher sur tous les pieds. C'est ce que nous apprenons. Mais la réalité, c'est que, en dessous de tout ça, il y a des valeurs que nous partageons avec les Français et avec les Américains. Et je pense que nous sommes à un moment où il faut réfléchir à quelle est la bonne direction géostratégique à prendre. Et franchement, si nous finissons sans deal, sans accord, il n'y aura que Poutine qui sera réjoui.
Jeremy Hunt, ministre britannique des Affaires étrangères, merci d'être venu sur France Inter. Thanks for coming.
Merci à vous aussi.
Merci beaucoup. Vous devez nous laisser car Jean-Yves Le Drian vous attend au Quai d'Orsay. Mais les auditeurs, qui sont nombreux au standard, ont beaucoup de questions à vous poser. Vous allez donc écouter France Inter dans la voiture.
Oui.
Bonne journée.
Bien sûr.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
On écoute votre question.
Voilà, ma question est très simple. On nous parle au sujet du Brexit régulièrement de Brexit mou et de Brexit dur. Alors cela est fort imagé, mais précisément, qu'est-ce que cela veut dire ?
Merci beaucoup de votre question, Marc. Alors, pour vous répondre, Florence Fauché, qui est professeure de sciences politiques au Centre d'études européennes à Sciences Po Paris. Bonjour Florence Fauché.
Bonjour.
Spécialiste du Royaume-Uni, comme je le disais, Monsieur Hunt ne pouvait pas rester. Mais vous allez répondre à Marc. Est-ce qu'on peut définir clairement ce qu'est un Brexit mou ou un Brexit dur ?
Évidemment, les mots sont connotés. Le choix de parler de dur ou de mou, ça veut dire qu'il y a une préférence pour le dur par ceux qui ont trouvé l'expression. Il s'agit, dans le cas du dur, il s'agit d'une sortie qui soit beaucoup plus franche. Un Brexit mou, pour les Brexiteurs, c'est un Brexit qui maintient des relations économiques, politiques, enfin des relations très étroites, et notamment ce qu'ils considèrent être une dépendance à l'égard de l'Union européenne, et donc une soumission, comme l'a dit Boris Johnson.
Bonjour François.
Oui, bonjour. Je viens d'Angleterre. J'étais avec des amis anglais tout le week-end. Et bon, d'abord une petite remarque. Je suis pas sûr qu'en anglais la connotation doux soit péjorative, parce que c'est soft et hard. Et soft n'est pas tellement péjoratif par rapport à hard. Deuxième chose.
Question, François.
Oui, ma question. Tout à l'heure, le ministre a évoqué l'idée qu'il puisse y avoir une séparation sans accord qui serait un accident. Est-ce que le référendum lui-même n'était pas une sorte d'accident démocratique ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'air empêtré par le résultat de ce référendum. Et finalement, à quelles conditions ? C'est une question qui se pose aujourd'hui.
Merci
dans
beaucoup.
Les tabloïds et tout. À quelles conditions est-ce qu'on pourrait essayer de faire marche arrière sans avoir l'air de brutaliser l'opinion.
Merci François pour votre question. Florence Fauché, le référendum est-il un accident démocratique ? Le référendum par lui-même est un outil démocratique. Le peuple est souverain, il se prononce.
Oui, et David Cameron, le Premier ministre qui a décidé d'organiser ce référendum, certes pensait qu'il l'emporterait, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne resterait dans le Royaume-Uni. Mais ceci dit, pour lui, les résultats étaient un accident à tel point qu'il n'avait pas véritablement voulu prévoir ou prévu un plan B, c'est-à-dire faire des préparations pour l'éventualité où la sortie l'emporterait. Ce n'est pas un accident, ceci dit, si on considère que les résultats ont quand même été assez clairs, avec 52% nationalement pour la sortie de l'Union européenne, même si il faut se souvenir que l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour rester dans l'Union européenne. Donc c'est vraiment un vote anglais et gallois en un sens. Faire marche arrière, c'est difficile. Et ceux qui ont fait campagne pour rester dans l'Union européenne aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, considèrent qu'on ne peut pas revenir sur ce choix démocratique.
C'est le cas de Jeremy oui. Hunt, qui souhaitait le maintien dans l'Union européenne. Aujourd'hui, il dit que son job, pardon d'employer ce mot anglais, sa mission, c'est d'accompagner le mieux possible le Brexit.
Parce que la Grande-Bretagne repose sur une souveraineté parlementaire et les référendums sont rares. cela donne sans doute encore plus de poids à un vote du peuple. Pour une fois qu'on leur a donné la parole, il est très difficile dans un contexte où, comme en France, le politique est extrêmement discuté, sont contestés, et il y avait une forte part de vote contre les politiciens, hein, contre les hommes politiques, contre les élus, contre les institutions au moment du vote pour Brexit. Il est très difficile de dire vous avez voté pour partir, et bien tant pis, on reste quand même.
Ça veut dire qu'un scénario à la française, rejet de la Constitution européenne en 2005 et traité de Lisbonne en 2007, ça ne vous semble pas plausible, possible en Grande-Bretagne ?
Je pense que le gouvernement conservateur de Theresa May va faire tout son possible pour éviter une situation pareille. La difficulté est que le Parlement est divisé. Il est difficile de trouver une majorité dans un sens comme dans l'autre Parlement, et que d'ailleurs la population est divisée également, et qu'il n'est pas du tout clair, s'il y avait un autre référendum, que le vote serait différent.
Le Parlement est divisé parce que le parti majoritaire, le parti conservateur, c'est-à-dire la droite britannique, est divisé.
Certes, mais le parti travailliste est également divisé. Il y a une petite frange de députés travaillistes qui étaient en faveur du Brexit.
C'est comme en France finalement. La ligne de partage se fait à l'intérieur des partis et non pas entre partis de droite ou de gauche, pour faire simple.
Oui, en un sens, on peut dire ça. Les seuls partis vraiment pro-européens sont le parti libéral-démocrate, qui a gouverné avec Cameron dans un premier mandat entre 2010 et 2015, et les partis nationalistes, et en particulier le parti écossais et le parti gallois. La situation est un petit peu différente en Irlande du Nord, puisque, comme vous le savez peut-être, l'année dernière, Theresa May, espérant obtenir une majorité plus confortable aux communes, a choisi de dissoudre les communes. Et au lieu d'obtenir une majorité confortée, une majorité absolue confortée de conservateurs, elle a été obligée de former une alliance avec un petit parti irlandais du Nord, extrêmement conservateur, très unioniste et anti-européen.
Il est 8h39, bientôt 9h20. On retourne au standard au 01 45 24 7000. Bonjour Guy.
Oui, bonjour. Ma question est relativement simple. Disons qu'à l'aune de ces négociations, je voudrais savoir ce que pensent les négociateurs anglais sur le problème des migrants qui était régi notamment par les accords du Touquet, qui donnaient à charge pour la France et l'Europe de faire barrage à tous ces migrants. Est-ce qu'il y a l'espoir d'avoir un petit peu une lueur d'humanisme et de laisser passer ceux qui veulent aller en Angleterre et que la Grande-Bretagne prenne sa part ?
Merci pour votre question, Guy. On va réexpliquer ce que sont ces accords du Touquet. Ils ont été signés en 2003 quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, 2003 ou 2004. Pour faire simple, Florence Fauché, ça veut dire que la frontière britannique et les contrôles se font sur le continent, à Calais. Ce sont les accords du Touquet, ça ne dépend pas de l'Union européenne. Là, il faut expliquer, c'était ce que disait Jeremy Hunt, il y a encore des tas de relations de pays à pays.
Bien sûr, effectivement, il s'agit d'un accord bilatéral. Donc, la négociation du Brexit porte sur la possibilité pour la Grande-Bretagne de remettre en question ou d'arrêter la libre circulation des citoyens européens.
Donc, des travailleurs, des salariés, des touristes.
Absolument, ça veut dire que si l'on veut aller travailler en Grande-Bretagne, on peut aller travailler en Grande-Bretagne, ou un Britannique peut aller s'installer dans un pays européen. C'est là-dessus que les Britanniques vont pouvoir, avec une sortie, rétablir leur contrôle. Mais pas sur l'immigration illégale, clandestine, et en provenance
d'autres... Surtout que l'accord, vu de Londres, il est plutôt bon, puisque c'est à la France de s'occuper des contrôles sur le continent et d'empêcher les migrants clandestins de traverser la Manche. Donc pour Londres, c'est tout bénef, si je puis dire.
En un sens, oui, mais les contrôles qui vont devoir être mis en place selon le type de Brexit qu'ils parviennent à négocier, et non seulement le contrôle des personnes, mais aussi le contrôle des marchandises.
Des marchandises, des biens, des flux financiers.
Des flux financiers, oui.
C'est ce que l'on lisait dans Les Échos ce matin, où les Anglais ont très peur que beaucoup de services financiers se relocalisent sur le continent, par exemple à Paris ou Francfort.
Bien sûr, parce que l'essentiel de 70% de l'économie britannique est fondée sur les services, avec une forte part des services financiers, notamment avec des échanges avec la zone euro et les échanges sur l'euro.
Est-ce que les pressions des milieux d'affaires de la City pourraient influencer le gouvernement britannique britannique et la majorité conservatrice ou pas du tout?
Le gouvernement est dans une, le parti conservateur est dans une situation un peu schizophrène dans la mesure où il dépend dans sa partie de responsable pragmatique des milieux financiers, mais en même temps, ils dépendent aussi de leurs électeurs. Et les électeurs ont quand même, dans une, en particulier pour les électeurs conservateurs, sont majoritairement en faveur du Brexit. Et à l'heure actuelle, la première ministre et les députés conservateurs voient aussi la pression du parti UKIP, qui s'était un peu dissous avec le référendum, revenir à la charge et se remobiliser pour faire pression sur le gouvernement pour un Brexit qui soit franc et massif, qui soit un Brexit dur.
Une dernière question, c'est celle de Dominique. Bonjour.
Bonjour France Inter, bonjour Madame Fauché. Je crois que le retrait de l'Union, du Royaume-Uni de l'Union européenne, est-ce-t-il une perte? Mais je crois que le ministre anglais disait que parlait de l'amitié entre l'Angleterre et la France, mais qu'il y a ce refus de construire justement cette Union européenne.
Et donc, quelle est votre question? Quelle est votre question, votre observation, Dominique?
Mon observation, le Royaume-Uni, est-ce une perte du fait de son retrait?
Merci beaucoup,
bien sûr,
Florence Fauché.
Bien sûr, c'est une perte considérable et il ne faut pas négliger non seulement le coût économique que cela aura pour la France au premier regard, bien sûr, puisqu'on a quand même des relations extrêmement étroites avec nos partenaires anglais, mais pour l'ensemble de l'Europe. La position du Royaume-Uni a quand même été celle d'un pays extrêmement dynamique qui a apporté énormément à l'Union européenne, notamment en termes d'innovation, mais aussi de libéralisme en quelque sorte. Donc il y a bien sûr aussi tous ces accords bilatéraux et ces accords très profonds avec les 40 agences au-delà de l'Union européenne dans lesquelles ils sont impliqués et pour lesquelles on souffrira en quelque sorte de leur départ.
Et puis c'est un pays, on le disait avec Jeremy Hunt, qui collabore énormément avec la France sur les questions militaires, de défense. Il y a des très gros dossiers diplomatiques, l'Iran, la Syrie. Là encore, le travail continue.
Le travail bilatéral continuera. Les relations vont être un peu plus compliquées. Et je pense que ce qui a été difficile pour la Grande-Bretagne, c'est de comprendre aussi que l'Europe pouvait faire bloc contre eux. C'est une vieille stratégie britannique, on pourrait dire, de concevoir aussi l'Europe comme en la divisant pour mieux la dominer. En l'occurrence, là, la stratégie pour diviser l'Union européenne, pour essayer d'obtenir un accord qui soit à leur bénéfice, a été beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu.
Pour l'instant, ça n'a pas vraiment pris. Florence Fauché, professeure à Sciences Po Paris, spécialiste du Royaume-Uni, merci d'être venue écouter Jeremy Hunt et répondre aux questions des auditeurs de France Inter. Bonne journée.
Merci, au revoir.